Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Bonsoir François Ruffin.
Bonsoir.
Vous êtes
bonsoir.
Pourquoi je vous dis bonsoir?
Pas, il est 9h20.
Est-ce que la nuit est tombée depuis dimanche?
Joyeux Noël. En fait, c'est ça, c'est que je suis fatigué déjà. À 9h22, j'ai envie de me coucher. François Ruffin, député en campagne pour sa réélection du côté de la Somme. Finalement, vous allez être sauvé par les électeurs de Macron?
Écoutez, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni ses électeurs. Donc on verra ce qui se passe dimanche soir. Maintenant, je pense que la grande question, elle a été posée par votre auditeur tout à l'heure. C'est pourquoi on en est là. Et la meilleure séquence politique que j'ai vue, moi, c'est sur ce plateau. Et c'est Joël Dago qui interpelle Yaon Brelpivet
vendredi
en disant « Qu'est-ce que vous avez fait de la France ?» Et je dirais que ce qui se produit aujourd'hui dans un coin comme le mien, la Picardie, avec 6 députés Rassemblement National élus dès le premier tour, c'est annoncé. C'est pas un coup de tonnerre, bien au contraire, c'était prévu, c'était attendu. Pourquoi? Parce que on a Emmanuel Macron qui est sorti quand même sans panache de la dernière élection présidentielle. Après déjà, on avait traversé la crise des Gilets jaunes, on avait traversé la crise Covid. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée et il décide à la place de gouverner le pays, je veux dire, avec modération, avec mesure, avec prudence, de passer avec force et arrogance par-dessus le pays, avec notamment la réforme des retraites. 8 salariés sur 10 y étaient opposés, tous les syndicats unis, une majorité de députés vraisemblablement aussi à l'Assemblée, et ils passent en force là-dessus. Ça fait des dégâts, ça fait des dégâts immenses dans le pays. Donc moi, je viens ici pour demander comment on apaise, comment on répare et comment on sort de la brutalité pour, je dirais presque, apporter de la tendresse aux Français. Voilà, je pense que les Français ont besoin d'être gouvernés avec affection, avec tendresse, plutôt qu'avec...
D'accord avec le constat que vous faites, mais pardon, pour faire barrage au RN, vous êtes obligé de mettre en place une alliance contre nature avec des gens que vous venez de dénoncer. Vous parlez de la réforme des retraites, vous parlez de ce qui s'est passé depuis 7 ans dans le pays. Et on demande aux électeurs, finalement, de tout oublier parce qu'il y a un péril plus grand, c'est le Rassemblement National. Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher?
J'en sais rien, vous savez, et je viens même pas pour parler de ça. Moi, je viens pour parler aux gens. C'est des gens qui sont au bout du téléphone, de la radio. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur parle de petites boutiques où on leur dit voilà comment on peut réparer le pays? Je vous pose là trois mesures sur la table qui répondent pour moi aux trois moments où on avait déjà un pays qui allait mal avant Emmanuel Macron. Il s'agit pas de tout lui mettre sur le dos, mais qui ont été des moments supplémentaires de déchirement. Le premier moment, c'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, pendant qu'on, à l'époque, on voulait mettre la CSG sur les retraités, les APL, la suppression des contrats aidés. Bon, le deuxième moment de tension, c'est les gilets jaunes. Le troisième moment de tension, c'est les retraites. Ben, je pense qu'il faut trois mesures qui répondent à ça pour au moins éteindre l'incendie. Et la première, c'est donc un retour d'un impôt sur la fortune qui rétablit un sentiment de justice fiscale dans notre pays. Le deuxième, et manifestement, il y a une demande démocratique qui émerge dimanche soir, c'est de dire que une demande des Gilets jaunes était le référendum d'initiative citoyenne. On doit le mettre en œuvre et on doit le mettre en œuvre rapidement. Enfin, troisième point, abrogation de la retraite à 64 ans.
Pour faire quoi?
Déjà, pour dire, cette mesure, on l'a passée en force dans
le pays.
Non, c'est pas nécessaire.
Pour bien financer le système.
Là, de toute façon, le système, on y dit soit que il n'est pas financé, soit que les économies qui ont été faites sont mineures. C'est pas pour des raisons financières qu'on a fait ça. On va pas revenir sur cette réforme des retraites. Ce n'est pas pour des raisons financières qu'on a fait cette retraite. C'est pour avoir un signal politique. Ben, le signal politique, il a été reçu à 100% par les Français et ça a été une tension supplémentaire entre les gens et les dirigeants.
Mais vous parlez de tendresse, il faut gouverner l'affection. Pardon, mais moi j'ai vu vos collègues, pas tous, hein, mais certains à l'Assemblée nationale là pendant quelques années, c'était pas très affectueux, c'était pas très tendre. Hein. Ça se parle mal, c'est très agressif, on est dans une opposition de combat très dure. Donc c'est une autocritique que vous faites?
C'est un mur.
Vous constatez que dès mon élection de 2022, ayant ressenti ça, parce que vous savez, quand vous faites mener une campagne, ce sont des centaines et des milliers de portes que vous ouvrez, ce sont des centaines de petites conversations que vous avez, et c'est comme un sondage géant que vous effectuez. Ayant senti la tension dans le pays, vous aurez constaté combien j'ai changé de ton parce que c'est un signal.
Donc il faut apaiser.
Un signal d'alarme et que j'ai voulu lancer en disant voilà, je vous écris du front de la Somme pour prendre la mesure de ça et de dire voilà, il faut passer, je dirais, du bruit et la fureur à la force tranquille. Il faut passer de la division au rassemblement.
Mais plus vous changiez de ton. Plus vous changiez de ton et plus vous obteniez d'ailleurs une sorte de stature qui, à mon avis, à gauche, faisait de vous quelqu'un d'absolument pivot pour réorienter une vraie gauche qui renoue avec cette gauche républicaine et cette gauche ouvrière qui a complètement déserté le peuple. Plus de l'autre côté, vos collègues insoumis, je ne sais même pas si c'est encore vos collègues d'ailleurs, sont délirants, ont même passé quasiment le Rubicon depuis le 7 octobre et vous n'avez pas franchi ce Rubicon, mais eux l'ont franchi, non seulement dans l'outrance, mais dans l'abjection. Moi, j'ai simplement une question, monsieur Ruffin, parce que je sais à la fois votre honnêteté, votre sens de la République. Comment vous avez supporté à 20h15 dimanche de voir apparaître Jean-Luc Mélenchon flanqué, bien sûr, de monsieur Bompard, dont on sait à quel point il vous adore, et madame Rima Hassan, qui d'ailleurs est députée européenne, donc n'avait rien à faire là, fichue de son kéfier sur les épaules. Quel rapport ça a avec le combat de la gauche que vous incarnez? Est-ce qu'il n'était pas temps, déjà il y a quelques mois, voire années, de rompre avec cette famille politique?
Écoutez, je m'exprimerai avec clarté sur tout ça quand le match sera terminé. Je suis sur le terrain, je mène le match. Madame Lefebvre, vous savez que nos désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus, ils sont profonds, à la fois sur le ton et sur le fond, mais c'est pas le moment. Donc là, je mène le match. Je mène le match jusque dimanche soir. Et dimanche soir, on verra qu'il y ait une défaite ou une victoire. C'est au peuple d'en décider, au peuple de la Somme, de mon coin, d'en décider. Mais il y aura des leçons à tirer de ce qui s'est passé depuis deux ans.
Jean-Martin. Vous pourrez donc siéger sans étiquette.
Pour une fois, j'ai pas fait.
Je suis
pas
de gauche. Question, de toute façon, moi, ma famille, c'est la gauche.
D'accord, mais vous siégerez à gauche sans étiquette.
Je ne peux que saluer et dire parfait à la réponse de François Ruffin à l'instant. Et se comporter en rugbyman. On a un match à mener, on a un match à gagner, et tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière minute, ce match n'est pas terminé. Et donc, systématiquement, montrer une partie du nouveau Front populaire pour dire, il faut les écarter, et pour justifier, parce que soit un peu en adéquation avec tes idées, on gagnera du temps, pour justifier
déjà,
la venue, pour justifier la venue,
on gagnera du temps,
pour
déjà,
j'acheter, pour justifier, je te
non,
parle avec le temps que je veux, pour justifier la venue,
nous avons
non,
besoin du rassemblement,
du rassemblement national, pour s'apaiser, nous avons besoin d'une France apaisée et d'un plateau des grandes gueules apaisé.
Non, mais gagne du temps, gagne du temps, et soit en adéquation avec tes idées, gagne du temps.
Mais
Jérôme, pas d'agressivité, on l'a dit.
Non, mais d'accord, mais c'est pas agressif de dire ça,
si, si.
Si, je dis ce que je veux.
C'est pas agressif.
C'est la démocratie, ne t'en déplaise.
Soit en adéquation avec tes idées, quoi.
Non, mais chacun a le droit de dire ce qu'il veut, Jérôme.
Mais c'est pas un camp du bien, un camp du mal.
Non.
C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu favorises la venue du Rassemblement National au pouvoir,
je favorise
le Rassemblement National.
Je ne favorise pas, rien, non. Je suis comme Bruno Le Maire, t'en déplaise. Ouais. Je considère. Je considère, excuse-moi, que les Alma Dufour, que les David Guiraud, que les Émeric Caron, que les Boyard n'ont rien à faire là, ils ne sont pas républicains.
Vous dites bonjour, Émeric Caron, il était allé au premier tour.
Bruno Poncet, question à François.
Émeric Caron qui n'a jamais rien fait pour les animaux.
Moi, quand je voulais une question. Moi, quand j'ai une question à poser à François, je lui fais directement. Mais moi, je trouve que ce qu'il vient de dire est vrai, en fait. En fait, quand tu tournes un peu, moi je tourne pas mal en France pour plein de sujets, et quand tu tournes un peu, tu sens ce truc-là, ce fait qu'à un moment donné, les gens ils ont été tabassés. Et quand je te dis, moi j'étais avec un gilet jaune tout le week-end, là on était à Londres ensemble, et il m'a dit, on a été tabassés, et en fait, alors pas uniquement physiquement, parce que ça c'était vrai, mais ils ont été maltraités. Et aujourd'hui, quand tu parles un peu du vote avec lui, il te dit, mais à un moment donné, enfin, droite-gauche, on a pris des coups. Et donc, il a fallu que tout le week-end, je discute avec lui pour expliquer que le RN, ça n'allait pas être non plus la panacée pour lui, que c'était peut-être pas ça. Je ne sais pas ce qu'il a voté dimanche, vu qu'il a fait une procuration, mais je me dis qu'à un moment donné, le discours de François doit être entendu de dire, bon, faut qu'on pense aussi à l'après. François, il a son combat à gagner, ça c'est clair. J'espère qu'il gagnera, parce que pour nous, pour tous les gens qui ont un peu encore des idées de gauche ou d'extrême gauche, la présence de François à l'Assemblée nationale, et qu'il l'a dit lui-même, d'une présence apaisée comme il avait, elle est pour nous nécessaire, elle est même vitale. Mais par contre, à un moment donné, ouais, il va falloir qu'on pense un peu à l'après. Et l'après, pour certains, l'après, ça va être le chaos. Et quelle que soit la couleur, ça va être le chaos. Et pour d'autres, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on rabiboche un peu les Français.
D'accord. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur le vote de dimanche. Ce qui est intéressant de voir, c'est la carte électorale. Et de voir, par exemple, dans le bassin minier, où Fabien Roussel a été battu dès le premier tour, il n'y a plus un seul élu de gauche. De voir que, finalement, aujourd'hui, le vote de la gauche se concentre essentiellement en métropole, dans les quartiers, mais assez peu ailleurs. Et donc ça, il y a quand même, pardon, à un moment donné, la gauche qui doit se regarder et dire, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Pourquoi depuis des années, ces gens-là nous ont tourné le dos en quelque sorte, alors que c'était notre électorat.
Vous savez, M. Truchot, que j'ai fait un livre entier, je vous écris du front de la Somme, qui sonnait l'alarme là-dessus en disant, ben, est-ce qu'on a une stratégie Terra Nova qui fait qu'on cumule les diplômés du centre-ville avec la jeunesse des quartiers populaires? Et tant mieux, il faut les avoir. Mais est-ce qu'on cherche à avoir aussi la France des bourgs qui s'allie à la France des tours ou pas? Manifestement, ce qui a été fait depuis 2 ans ne répond pas du tout à cette attente. Moi, je veux vous dire, toujours pour reprendre la remarque de Jean-Christophe, pourquoi on en est là? Les gens ont des vies dures et des vies qui se durcissent. Je donne un exemple. Les éboueurs sont en grève par chez moi. Pourquoi? Parce que quand on les écoute, ils me montrent leur téléphone, c'est le Crédit Agricole qui, tous les 6 du mois, les informe qu'ils sont à découvert de 650 euros. Alors qu'ils ont un découvert autorisé de 400 euros. Parce que c'est un père célibataire avec 2 enfants qui est obligé de demander à sa mère ou à sa famille une rallonge pour pouvoir terminer le mois. Et ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui vont au boulot, qui ont mal au dos, qui ramassent nos poubelles, et c'est comme ça. Et non seulement déjà leur vie est dure, mais là, on vient leur dire réduction de budget, la commune est endettée, donc on va venir vous gratter 100 à 200 euros là-dessus. Ça produit quoi ? Ça produit 2 choses. Ça produit quelque chose qui se restreint sur le plan matériel, comment on peut vivre, comment on peut offrir des activités à ses enfants, comment on peut partir en vacances, mais ça produit autre chose qui est de l'ordre spirituel, un sentiment d'humiliation. C'est un éboueur qui me dit, on me propose 9 centimes de plus, c'est comme si on me crachait à la gueule. Ah, et donc voilà.
D'accord,
Et donc, voilà.
Oui, mais quand je regarde le programme, pardon, du nouveau Front de Gauche, d'accord, il faut donner de meilleurs salaires, il faut dépenser plus socialement, mais la France est déjà très endettée, on fait partie des mauvais élèves européens. Est-ce que vous proposez, c'est encore plus de dépenses? Certains disent que ce programme est inapplicable. Non. C'est un programme pour faire plaisir. Alors, 1600 euros le SMIC, la retraite à 60 ans, mais c'est un programme inapplicable. Répondez-vous à ça.
Je dis d'abord, M. Truchot, que ces gens-là, ces gens qui travaillent, cette France qui lève tôt, elle doit avoir le sentiment tous les jours que la gauche lui parle à elle. C'est la première chose. D'accord. Et c'est ce que je viens faire ici.
Il ne faut pas lui faire des promesses qu'on ne tiendra pas.
Je ne fais pas des promesses. D'abord, on peut dire que on va pas se rationner sur eux. Quand dans le même temps, je vous assure, vous le voyez, regardez la une des Échos, la semaine dernière, 145 milliards d'euros de profit pour le CAC 40.
D'accord.
Ah bah oui.
Oui. Et donc et ça la s'appelle... plupart de ces profits sont faits ailleurs qu'en France. Et donc vous pourrez pas faire grand chose.
Mais il y a.
Bah oui.
Alors les milliardaires français représentaient 5% du PIB il y a 25 ans et représentaient 20% du PIB à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ils représentent aujourd'hui plus de 40% du PIB. Donc simplement une chose, le partage. On va pas tout leur prendre, mais simplement qu'il y ait autre chose que les miettes, que les gens qui font tenir le pays debout. Eh ben, ils reçoivent une juste part de ça. Mais et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, donc, je pense que voilà, il s'agit d'avoir de la décence et du bon sens pour les Françaises et les Français.
C'est pas l'actionnaire qui fait travailler l'économie française. Hein. C'est le travailleur
quand même
avec
besoin
une
d'argent
mission
pour
sociale.
Faire tourner les entreprises. Ça s'appelle le capitalisme.
C'est plus une aide-soignante et un éboueur qui fait vivre la France qu'un un actionnaire et ses dividendes.
Alors, il y a aussi la question, si la gauche l'emporte dimanche, c'est qui à Matignon? Alors, la gauche n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors qu'on sait que ça sera Gabriel Attal si c'est les macronistes qui gagnent, que ça sera Jordan Bardella si c'est le RN. Écoutez ce que disait Sophia Chikirou, députée réélue France Insoumise.
On en a des candidats pour être Premier ministre. On l'a démontré dans les débats. On saura faire.
Et ça ne passe plus Mélenchon comme Premier ministre à gauche.
C'est pas grave. Ce sera soit Mélenchon, soit un autre insoumis. Tout ce que je demande, moi, aux électeurs, c'est de faire en sorte que nous, les députés insoumis, soyons forts, très forts à l'Assemblée nationale.
Donc ça sera forcément un insoumis.
Je vais vous dire, de toute façon, de là où je parle, de Picardie, tout ça est lunaire. La discussion aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura une majorité absolue pour le Rassemblement national ou
donc
pas.
Vous avez abandonné l'idée de gagner à gauche.
Et je pense que là, le match nul et faire qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour le Rassemblement national est déjà dans un premier temps une victoire.
Oui, mais ça serait une assemblée ingouvernable.
Je ne pense pas du tout que, par exemple, l'assemblée précédente était ingouvernable. Je pense que Emmanuel Macron a choisi de ne pas gouverner comme il l'aurait dû. On a un pays qui est profondément
divisé. Avec la droite.
Avec la gauche, il avait dit à la fin de... Quand il était élu, il avait dit que c'était avec la gauche.
On a un pays qui est profondément divisé en 3 blocs. Et ben, je pense que dans ces conditions-là, il faut en tenir compte. Mais
vous croyez que demain, il serait capable de voter 149-3 et sans ordonnance? Il en est incapable psychologiquement. Vous le connaissez depuis très longtemps et vous le connaissez même depuis plus longtemps même que nous.
Pas du
puisque
tout.
Vous êtes du
pas
même
du
point.
Comme vous faites des allusions, Madame Le Pen, sachez que j'ai rencontré Emmanuel Macron pour la première fois en 2016. Donc,
c'était...
Vous viennent dans la même ville.
Non, mais vous connaissez son itinéraire,
ville, bon,
vous connaissez son itinéraire politique et vous voyez bien la psychologie du personnage quand même, on le voit.
Ah mais ça,
vous l'imaginez,
oui, non, le
vous l'imaginez
jours, oui.
Demain renoncer au 49-3 et à la toute-puissance.
Mais en tout
donc
cas,
la question que moi je vous pose, est-ce que vous ne pensez pas que la clarification qu'il a demandé, elle est là, que la France va être probablement ingouvernable, parce que moi non plus je ne crois absolument pas à la majorité absolue du Rassemblement National, c'est pour ça que tout ce barnum me fait un peu ricaner, parce que de toute façon ils ne l'auront jamais. Est-ce que vous ne pensez pas que la vraie clarification, c'est la démission du président de la République pour qu'on arrive en début 2025 à la réorganisation de vraies présidentielles?
En tout cas, si jamais il y a un choix qui devait être fait de cette nature-là, je souhaite qu'il ne soit pas précipité comme on l'a fait pour
exactement
les élections législatives.
Avant
et qu'on permette aux forces politiques, qu'on permette aux dirigeants de s'organiser, de réfléchir et de porter un vrai projet pour les Français
2025.
Et pas d'être dans cette improvisation.
Sûr,
avant cette politique fiction d'une dissolution ou d'une présidentielle anticipée, il y aura sans doute quand même, s'il n'y a pas de majorité absolue, il faudra former un gouvernement. Est-ce que vous pourriez participer à une coalition? Alors, par exemple, Yann Braun-Pivet dit qu'une coalition qui pourrait aller des communistes jusqu'au LR.
Écoutez, il y a eu des grands moments dans notre histoire qui se sont faits avec cette coalition. Notamment, on peut penser à la sortie, à la libération,
où il y avait des communistes et des gaullistes.
Il y avait un gouvernement commun. Maintenant, c'était quand même autour d'un projet commun,
voilà,
qui était le programme du Conseil national de la résistance.
Voilà.
Et donc là, il s'agit d'avoir un projet commun. J'ai posé les trois mesures qui ne sont pas de l'ordre de l'architecture. Il nous faudra des architectes pour porter un projet pour la France. Là, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est le pompier qui commence à éteindre l'incendie. Et je le dis, les trois mesures que je pose sur la table, c'est le retour d'un impôt sur la fortune parce qu'il y a un enrichissement des plus riches dans notre pays, le référendum d'initiative citoyenne pour que les Français puissent avoir voix au chapitre plus régulièrement, et l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans.
Merci François Ruffin. Bonne fin de campagne.